Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Hélène Lefrançois, mais aussi Rosalie Suc, Margot Leridon et Bertie Bourdon, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Pascal Baudin. Dernier volet de notre série consacrée à l'odyssée du vêtement, de l'usine au dressing. Après avoir parlé des pôles de production du textile et de l'habillement, à la fois moteur et victime de la globalisation, après avoir parlé des conséquences sociales et environnementales de la mode éphémère, la fast fashion, aujourd'hui regardons comment le secteur façonne nos espaces urbains. Et cap sur la capitale de la confection brésilienne, Sao Paulo, quand les ateliers organisent la ville, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
J'ai été effrayée dès le premier instant. C'était la première fois que j'étais assise derrière une machine à coudre. Dès l'instant où je suis rentrée à l'intérieur de l'atelier, j'ai immédiatement compris que ce ne serait pas uniquement mon lieu de travail, mais également mon lieu de vie, ma maison. J'essaie de voir si les ateliers sont réglementaires et légaux. C'est comme ça. Nous travaillons généralement comme le font les autres dans cette région. Mais c'est comme ça. Vous apprenez que lorsque vous vous faites prendre. Nous ne voulons pas avoir des clusters d'ateliers illégaux opérant dans notre pays. C'est un combat permanent, de tous les jours, qui ne prend pas fin, car où que vous soyez, il y aura toujours de bons et de mauvais individus. Mais en ce qui nous concerne, nous sommes réellement concentrés sur l'éradication de cette pratique au Brésil.
Extrait d'un documentaire intitulé « Brésil, esclave de la mode », un documentaire de Lali Houghton qui avait été diffusé sur Al Jazeera en décembre 2016. Depuis les années 60, la consommation de vêtements ne cesse d'augmenter au Brésil. L'essor de la classe moyenne et la diffusion de la mode bon marché ont profondément bouleversé l'économie de l'habillement et permettent aux ateliers de confection de prospérer, surtout en ville. C'est le cas à Sao Paulo, qui est devenue la capitale brésilienne de la confection. Disséminée dans le centre-ville et en périphérie, ces ateliers ont résisté à la désindustrialisation et continuent de faire vivre ces quartiers. Car l'atelier est à la fois un lieu de travail, mais aussi un lieu de vie, animé notamment par une main-d'œuvre souvent immigrée. D'ailleurs, les conditions de travail de cette population corvéable travaillant sur ces sites, officiels ou clandestins, sont très régulièrement dénoncées ou pointées du doigt. Alors, à quoi ressemblent ces ateliers et qui les fait vivre? Comment ont-ils évolué dans la ville au gré des changements sociaux et économiques du Brésil? Et quel rôle jouent-ils dans la dynamique de la métropole? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité Sylvain Souchot. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes géographe, chargé de recherche à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement. Vous êtes membre du laboratoire URMIS.
Oui, URMIS, c'est Migration et Société.
Et vous signez un ouvrage qui est paru l'année dernière, Géographie de l'atelier, confection, migration, urbanisation à Sao Paulo. Un ouvrage paru, coédité par l'IHEAL et l'IRD. D'abord, Sylvain Souchot, pourquoi est-ce que vous êtes intéressé en particulier à cet objet, c'est-à-dire aux ateliers de confection à Sao Paulo? Qu'est-ce que ça vous permettait de regarder? Toujours intéressant de savoir pourquoi on s'intéresse à un objet d'étude.
Alors, je suis arrivé sur la question des ateliers en étudiant la migration internationale, régionale, à São Paulo, au Brésil. L'immigration récente au Brésil vient de pays voisins, la Bolivie, le Paraguay, et se concentre vraiment assez nettement dans la confection et à São Paulo. Donc, de la question migratoire, j'en suis arrivé à cette question industrielle, productive, et puis surtout urbaine, parce que j'ai trouvé dans ces ateliers un certain nombre de questions relatives aux évolutions de la société brésilienne récente, notamment l'urbanisation, et notamment autour de la question de la transition démographique. Hein. Autant de changements qui sont importants, décisifs hein, dans la trajectoire actuelle contemporaine du Brésil.
Sur lesquels on va pouvoir se pencher ensemble ce matin. Commençons peut-être par le volet économique, si vous voulez bien, Sylvain Souchot. Vous dites dès l'introduction de votre livre qu'à Sao Paulo, il se passe pas un mois, peut-être même une semaine, sans que les journaux, les télés pointent du doigt les conditions de travail dans ces ateliers de confection, et peut-être en particulier sur les populations migrantes, mais ça, on y reviendra. Mais si cette situation, elle perdure, c'est aussi aussi parce qu'il faut bien comprendre que le poids économique de ce secteur est colossal pour la ville. Aidez-nous un peu à comprendre justement l'importance économique de ce secteur.
Alors, il y a plusieurs façons d'aborder cette question. D'abord, la plus simple, peut-être, ça serait de dire que la population brésilienne a augmenté considérablement en 60 ans. La population urbaine, notamment, a été multipliée presque par 10. On a aujourd'hui 210 millions d'habitants au Brésil, 21 millions dans la métropole de São Paulo. Donc l'urbanisation massive a fait évoluer les comportements et les habitudes de consommation, notamment autour du vêtement. Donc augmentation de la population, changement des modes de consommation, tout ça évidemment entraîné un développement important de la confection et de l'usage du vêtement.
Ce sont des vêtements qui sont essentiellement destinés au marché intérieur. Ou est-ce qu'il y a aussi une partie qui est exportée ?
Alors, le Brésil est un gros producteur de vêtements. Je crois que c'est le sixième mondial. Hein. C'est une grosse production de vêtements, mais qui a la particularité de se concentrer sur le marché intérieur. Il exporte très peu. Moins de 10% de la production est exportée. Donc, c'est une consommation nationale pour le marché intérieur. Et notamment, citadin, mais pas seulement. Hein. La production de São Paulo est diffusée dans l'ensemble du pays, hein, aux quatre coins du Brésil.
Si on fait un petit peu d'histoire, Sylvain Souchaud, à quand faut-il remonter pour voir ces ateliers de confection s'implanter dans cette ville de São Paulo ? Sachant que vous l'avez dit, et on le redira probablement à plusieurs reprises dans cette émission, São Paulo, ça a explosé. Si on regarde un peu la démographie de la ville, en un siècle, on est passé de... Alors je crois que c'est, on est en 1900, on va être à peu près à 200 000 personnes. On est aujourd'hui à plus de 11 millions. Ça donne un tout petit peu une idée de l'explosion démographique. Mais à quand est-ce qu'il faut remonter pour voir les premiers ateliers de confection à São Paulo?
Alors, le São Paulo, c'est 21 millions aujourd'hui.
Si on prend 21 raison, millions.
Parce que c'est la commune centrale qui n'est pas D'accord. du tout, qui n'épouse pas les contours de l'agglomération. La commune centrale, c'est 11 millions et l'agglomération, ouais. c'est autour de 20 millions.
Ouais, j'ai regardé hier sur Wikipédia, j'ai vu un peu plus de 11 millions. Alors, je répète bêtement.
Mais à la fin du 19e, effectivement, il y avait à peine 50 000 habitants. Et alors, effectivement, les ateliers sont arrivés un peu plus tard. La confection, d'abord, c'est une activité réservée aux tailleurs. Hein. C'est du l'habit individuel. Donc, son industrialisation, la production en nombre, en série de vêtements, débute, disons, de façon importante dans les années 50, au moment où il y a une industrialisation, une augmentation de la population urbaine, et quand le vêtement change un peu d'attributs, ça devient quelque chose d'un produit de consommation courante, interchangeable, et c'est à ce moment-là que les ateliers se développent.
Et le moment important, c'est la deuxième moitié du XXe siècle. Je vous cite, la croissance de São Paulo et son rayonnement sur l'ensemble du pays se confondent avec l'essor de son industrie et de son commerce de vêtements, c'est-à-dire que la ville et l'industrie de l'habillement se sont en quelque sorte co-construits.
Oui. Alors, il y a ce qu'on trouve hein, qui est relatif aux vêtements avant la deuxième moitié du XXe, c'est l'industrie textile, donc la fabrication du tissu. Mais dans un premier temps, l'industrie du textile va perdre en importance, va surtout se déplacer vers les périphéries urbaines ou dans d'autres états du Brésil. Et São Paulo va conserver, d'un point de vue industriel, la production de vêtements, va même se spécialiser. Hein, et donc, de plus en plus, la production de vêtements s'ancre et se renforce à São Paulo, alimenté par une économie urbaine, une image de la ville, toute une série d'éléments qui stimulent cette activité industrielle.
Je vous cite encore, en inondant le pays, les vêtements de São Paulo diffusent l'image de modernité de la métropole. Mais pourquoi São Paulo ? Il y a bien d'autres villes au Brésil. Pourquoi c'est São Paulo qui est devenue la capitale de la confection ?
São Paulo devient la capitale de la confection parce que elle a une trajectoire urbaine bien spécifique. C'est vraiment l'archétype de la ville industrielle. Donc c'est sur ce tissu industriel et cette façon d'organiser l'espace urbain que l'atelier de confection surgit et puis prospère.
Oui, parce qu'il y avait peut-être, faut-il le rappeler, un passé de caféiculture très important et qui a peut-être aussi joué dans cette affaire-là. C'est-à-dire qu'on avait l'habitude de faire venir des ouvriers, de les accueillir. Il y a déjà une histoire longue de la migration de travail ici à São Paulo.
Oui, le premier essor démographique de São Paulo, c'est la fin du 19e, début du 20e, et c'est l'immigration massive hein, européenne. 3 à 4 millions d'immigrants européens, puis asiatiques, hein, arrivent au Brésil et s'installent en grande majorité, très grande majorité, dans l'État de São Paulo pour travailler dans le café. Mais une partie conséquente hein, quitte les fazendas, hein, donc les grandes propriétés des plantations, et s'installe en ville. Alors il y a un mouvement donc démographique, hein, de croissance urbaine, et puis aussi São Paulo qui va jouer l'interface entre le port d'exportation Santos et l'arrière-pays producteur de café.
Donc toute une dynamique industrielle. Une situation géographique très particulière aussi. Alors regardons maintenant l'intérieur de la ville, Sylvain Souchaud, essayons de faire un peu de cartographie, et puis ensuite on va regarder ce qu'il se passe précisément dans ces quartiers. Mais d'abord, les grands pôles aujourd'hui où se trouvent ces ateliers de confection, les quartiers. Alors, je vais essayer de les prononcer. Bon Retiro, Brasse, Paris, je prononce correctement ?
Oui.
Alors, il y a une chose qui est assez intéressante, c'est qu'en fait, ces trois sites-là, d'abord, ils sont assez centraux dans la ville, si je ne m'abuse, hein, et ils sont aussi mitoyens. J'ai regardé, il y a des cartes très intéressantes dans votre ouvrage. Ils sont tous collés les uns à côté des autres. Est-ce que c'est un hasard total? Et est-ce qu'on peut dire que ces quartiers en particulier se sont construits par avec le développement des ateliers ou est-ce qu'ils préexistaient déjà?
Alors ces trois quartiers, donc le Brasse, le Bom Retiro et le Paris, se trouvent effectivement dans un secteur du centre de São Paulo qui administrativement compte 10 districts, hein, à peu près 500 000 habitants. C'est assez une région assez vaste. Et donc ces trois secteurs, ces trois districts, ces trois quartiers se trouvent dans le nord-est. Alors historiquement, ils sont intéressants parce que ce sont des quartiers de justement hein, du développement industriel de la fin du 19e, début 20e. Mmh. Quand São Paulo se développe à partir de l'hypercentre, hein, des deux districts du centre, et développe un tissu industriel, c'est en direction de ces quartiers-là, le Brasse notamment, et le Bom Retiro, hein, que les grandes industries métallurgiques, alimentaires, etc., textiles, se développent. Et à l'époque, hein, c'est une population immigrée, ouvrière, italienne, espagnole, portugaise, qui s'installe. Hein. Donc il y a tout un tissu industriel, un type de bâti industriel, résidentiel, hérité de cette époque, hein, qui s'est transformé au cours du XXe siècle, mais qui a perduré. Et à partir des années 30, 40, 50, ça dépend des quartiers, il y a une déprise industrielle très forte. Hein. Ce bâti, ces quartiers entrent en déclin démographique, économique, en crise.
Sous l'effet de la désindustrialisation générale.
Généralisée, ouais. Il y a des politiques, il y a un mouvement général hein, de désindustrialisation de l'État de São Paulo et surtout de la ville de São Paulo. Et ces trois quartiers subissent ce mouvement assez fortement.
Et en même temps, les ateliers restent. Ils vont pas complètement disparaître. Alors même qu'on imagine aussi que, puisque centraux, ces ateliers vont connaître aussi une forme de gentrification, que le prix de l'immobilier va croître. Et pourtant, ces ateliers vont rester. Comment le comprendre?
Alors, les ateliers restent. Dans un premier temps, il y a une petite période de, non pas de crise, mais disons, les ateliers se développent pas forcément. C'est à partir des années 60-70 qu'on retrouve cette impulsion, notamment grâce à l'arrivée d'une immigration coréenne qui va remettre au goût du jour, disons, cette façon de produire. Hein. Ils vont procéder par étapes. D'abord, ils vont importer des machines-outils de Corée. Ils vont aussi importer le tissu à moindre coût. Et petit à petit, ils vont se spécialiser dans la confection, donc la fabrication du vêtement, l'assemblage précisément, le dessin et la confection. Et dans un dernier temps, ils se débarrassent de l'aspect productif en justement déléguant à des ateliers que d'autres immigrés plus récents, des vagues migratoires plus récentes, prennent en main. Dans une collaboration souvent assez étroite hein, entre ces donneurs d'ordre qui sont qui réalisent le dessin, qui commercialisent et ces exécutants qui assemblent les pièces.
Ouais, vous expliquez qu'effectivement ces Coréens, ils ont probablement une place particulière dans l'histoire de la confection à São Paulo et que aujourd'hui beaucoup sont propriétaires de magasins, de lignes de vêtements, sont très concentrés sur la création et qu'ils ont cette particularité qu'ils ont transféré toute la production à d'autres migrants, notamment aux Boliviens, aux Paraguayens. Qu'on va évoquer dans un instant. Mais vous dites aussi que vous avez eu du mal à pénétrer cette communauté-là en particulier. C'était presque plus facile, semble-t-il, pour les Paraguayens et les Boliviens. Très fermée, cette communauté coréenne à São Paulo. Vous avez vécu pendant plusieurs années.
Alors, à São Paulo, la population coréenne, si on étudie les lieux de résidence, hein, c'est très clairement, très nettement le Bom Retiro. Donc, c'est à ma connaissance le cas de concentration géographique d'une population le plus marqué. Donc, ils se concentrent dans ce quartier-là. Et ils sont vraiment étroitement liés à la confection, mais disons plus que la confection, au commerce et à la au design hein, et à la création de mode. Effectivement, je n'ai pas du tout eu accès, j'ai fait plusieurs tentatives.
Pas faute d'avoir essayé.
Non, j'ai essayé, mais sans succès.
Alors, il y a deux pays d'où sont originaires beaucoup de travailleurs, d'abord la Bolivie et ensuite le Paraguay. Pourquoi ces deux pays? Est-ce que la proximité géographique suffit à l'expliquer? Parce que quand on regarde, on prend une carte, effectivement, le Paraguay et la Bolivie, c'est pas très loin à l'ouest. Bon, mais est-ce que ça suffit à l'expliquer?
Disons que c'est un bon début.
Oui, pour un géographe, ça ne m'étonne pas comme réponse. Mais j'imagine qu'il y a d'autres choses.
Effectivement, il y a une proximité géographique. Et puis surtout, ces deux pays sont des pays d'émigration anciens, depuis les années 50. Hein. Ce sont deux petits pays en population assez modeste, 10 millions en Bolivie, 8 millions, 7, 8 millions en Paraguay. Géographiquement, c'est un peu plus, c'est presque la taille de la France. Mais donc, c'est des populations assez modestes, mais qui émigrent massivement depuis les années 50-60, et notamment vers l'Argentine. Donc, dans un premier temps, il y a une migration rurale dans les secteurs nord, dans les régions nord de l'Argentine, pour la canne à sucre, etc. Et puis, petit à petit aussi, en vertu du mouvement d'urbanisation que connaît le continent, de plus en plus, cette migration va se concentrer à Buenos Aires. Et puis, sous l'effet de crise ou de variation de la production, assez tardivement, la population paraguayenne et bolivienne commence à émigrer au Brésil, mais c'est assez tardif, et ce retard entre guillemets migratoire, à mon avis, est plus dû aux configurations migratoires brésiliennes qu'à des aspects du système migratoire bolivien-paraguayen.
Parmi les personnes auxquelles vous êtes intéressé, il y a le cas de Zunilda, par exemple, qui est née en 1984 du côté du Paraguay. C'est la cadette d'une fratrie de 5 enfants. Ils vivaient tous dans un petit hameau et tous ont quitté le pays. Ce que vous dites, c'est que quand même, globalement, ces gens viennent plutôt de la campagne.
Alors, pour le Paraguay, oui, ils viennent de la région orientale du Paraguay. Le Paraguay est un pays où la population se concentre à 95% dans la région orientale. Et en particulier, ces immigrés partent des départements du centre du pays, Caguassou notamment, de région rurale.
Et plutôt des hommes.
Et plutôt des hommes, même s'il y a un rattrapage, hein, il y a une augmentation de la migration féminine dans les derniers temps, mais initialement c'est plutôt une migration masculine. Et alors, tandis qu'en Bolivie, les régions migratoires sont plus liées aux régions andines de l'Altiplano et des régions proches de la capitale, La Paz et l'Alto. Donc c'est des populations qui peuvent être rurales, mais qui ont souvent quand même une expérience urbaine dans leur trajectoire migratoire avant d'arriver à São Paulo.
Sylvain Souchot, je le disais tout à l'heure dans mon introduction, il y a très régulièrement dans les médias brésiliens des faits, des dénonciations s'agissant des conditions de travail, en particulier de ces populations de migrants. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre justement ces problèmes, ces dérives? Parce que il y a en tout cas certains cas où on peut parler de cela. Essayons de comprendre dans quelles conditions travaillent justement ces migrants qui viennent du Paraguay et de la Bolivie. Puis ensuite, on parlera argent, on parlera de revenus, pour voir si justement on s'en sort et dans quelles conditions, parce qu'il y a peut-être aussi des différences selon les trajectoires. Sylvain Souchot.
Alors, les ateliers de confection hein, sont des unités de production assez petites. Hein. C'est pas du tout le format ou l'échelle hein, de ce qu'on peut imaginer en Asie, par exemple. À São Paulo, ce sont des unités qui emploient entre 3 et 20 ouvriers, principalement hein, de la main-d'œuvre immigrée. Et donc, il y a plusieurs niveaux d'informalité dans les ateliers. D'abord, le travail n'est pas déclaré, les horaires de travail ne sont pas respectés ou très peu, le produit des ventes ou l'activité n'est pas déclaré, et surtout les installations sont souvent vétustes, insalubres et mettent en danger hein, les ouvriers.
Alors, sachant que c'est pas toujours le cas. Il faut pas imaginer que c'est un secteur totalement informel, totalement illégal, totalement clandestin. J'ai été même assez frappé quand j'ai regardé les chiffres. Vous avez un certain nombre de tableaux, justement, pour essayer de comprendre quelle est la part du légal, de l'illégal, de l'informel, du formel. En réalité, quand même, l'essentiel, ça reste tout à fait légal.
Alors, pour ce qui est de la production de vêtements en général, ces ateliers ici, étant étroitement liés à la migration internationale, sont globalement, ont toujours un aspect d'informalité. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que la trajectoire migratoire individuelle et des patrons d'ateliers aussi fait que petit à petit, dans cette trajectoire urbaine, on commence à comprendre les mécanismes des ateliers et on se sort plus ou moins facilement de cette informalité. C'est-à-dire qu'on va régulariser son statut, on maîtrise un peu mieux les codes du marché du travail et la circulation entre les ateliers et on arrive à se faire une place, disons, un peu moins inacceptable sur ce marché du travail. Mais globalement, quand même, les ateliers sont des lieux où on travaille beaucoup, puisqu'on est payé à la tâche, hein, à la pièce. Donc, on travaille énormément. Les horaires, les journées sont très longues. Les conditions de travail sont très difficiles, puisque ça, c'est à peu près systématique, hein. Les normes de sécurité et d'hygiène ne sont pas respectées. Et évidemment, à partir de là, il y a beaucoup de variations, hein, selon que l'atelier est plus récent et selon la situation et les objectifs de l'entrepreneur, du patron.
Et que font les autorités pour justement lutter contre ces mauvaises, c'est pour le moins, conditions de travail?
Alors, il y a une politique de contrôle de l'État brésilien, de l'État de São Paulo, hein, une politique fédérale, mais aussi une politique de l'État, qui est assez efficace, mais elle souffre d'un manque structurel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de contrôle, et c'est une activité qui est en fort développement, donc l'État est un peu débordé par le nombre et la multiplication des ateliers. Mmh. Et grosso modo, quand les autorités dévoilent un cas de travail lié esclave ou de travail dans des conditions informelles, la procédure est d'incriminer le donneur d'ordre plutôt que l'exécutant et encore moins l'ouvrier. Donc ça, c'est un système assez intéressant qui est assez efficace, qui fait que très souvent, les donneurs d'ordre, quand ils cherchent des ateliers pour sous-traitants pour effectuer leur production, exigent, hein, un certain nombre, de plus en plus, hein, de qualité, hein, qui attestent de leur formalité. Notamment.
Mais ça a de l'effet? Est-ce que ça force effectivement les ateliers de confection à améliorer les conditions de travail de leurs ouvriers?
Dans une certaine mesure, mais globalement, le travail en atelier reste... problématique.
Il y a une chose aussi que vous avez remarqué à travers les nombreux entretiens que vous avez fait, Sylvain Souchaud, c'est que, alors, soit dans un premier temps, les primo-migrants n'ont pas tellement de choix, donc ils prennent ce qu'ils trouvent, mais en fait, assez rapidement, ils se mettent à leur compte. Là aussi, j'étais étonné de voir les chiffres, je crois que c'est à peu près un tiers, si je ne m'abuse, des migrants qui travaillent dans ce secteur, qui ont créé leur propre entreprise. Est-ce que c'est un choix réel, ou est-ce qu'en réalité c'est quelque chose qui est un peu subi, c'est-à-dire que c'est à peu près le seul moyen de s'en sortir, enfin, vous voyez ce que je veux dire?
Alors pour une main d'œuvre peu qualifiée, le marché du travail brésilien et le marché du travail métropolitain est très fermé, et on peut dire que c'est à peu près le seul secteur, hein, qui laisse une possibilité aux travailleurs immigrés. Donc la trajectoire habituelle, c'est on entre dans un atelier comme aide, comme commis, donc on fait des petites activités de nettoyage, de repassage, etc. Et aux heures perdues, on s'entraîne sur les machines. Et en quelques mois, on peut commencer à s'exercer sur la machine la plus simple, hein, la piqueuse à plat. Et puis, rapidement, on peut avoir un travail dans un atelier. L'apprentissage n'est pas très compliqué, ce qui fait qu'on peut avoir une trajectoire et trouver un emploi assez rapidement dans un atelier. Après, il y a différents postes, hein, de travail, et puis il y a des compétences qui s'acquièrent sur différentes machines, sur différents procédés, où on peut avoir des différenciations. Mais grosso modo, la confection reste quand même encore le principal secteur employeur dans la métropole, et d'autres secteurs d'activité, notamment le travail domestique, le bâtiment, sont encore très fermés à l'immigration internationale, en raison d'une configuration migratoire brésilienne qui fait que la migration interne, notamment des régions du nord-est du Brésil, occupe encore majoritairement ces secteurs d'activité traditionnellement ou de plus en plus dans des économies, disons, émergentes, ouvertes aux immigrés. Donc cette dualité du migratoire au Brésil entre migration interne et migration internationale, on l'observe très bien sur ce marché métropolitain.
Et est-ce qu'on observe des différences de revenus très importantes entre précisément la migration interne et la migration internationale? Est-ce que le fait justement d'être un étranger, on a des patrons qui profitent de cette situation pour les payer beaucoup moins, ou est-ce que c'est pas forcément le cas?
Non, les salaires au Brésil restent bas, même quand on est déclaré à faible qualification. Le salaire minimum est bas et très bas même. Et on pourrait même dire que dans les ateliers, les salaires sont globalement un petit peu plus élevés et restent modestes, hein, mais au prix d'un nombre d'heures de travail plus élevé. Ce qui va différencier peut-être le travail du secteur à grands traits, hein, parce qu'il faudrait nuancer quand même ça. Mais disons, dans l'atelier, le travail est beaucoup moins encadré que dans le marché formel pour la migration interne, disons. Et c'est la différence qu'on pourrait établir.
Et pour les migrants, est-ce que monter son entreprise, c'est réellement une option payante, plus payante que de s'engager pour un patron, légalement ou illégalement d'ailleurs?
Alors, monter l'atelier, c'est assez fréquent. Il y a plusieurs types d'ateliers. Il y a l'atelier donc qui est strictement fabricant, qui assemble les pièces. Et puis, de plus en plus, on voit des immigrés qui achètent une machine, ça coûte très peu cher, une machine ou deux machines, et puis commencent à dessiner leur propre modèle. Et après, ils intègrent différents éléments dans la chaîne de production, c'est-à-dire qu'ils vont concevoir les vêtements, les produire et les commercialiser. Et c'est sûrement à ce prix-là, en intégrant ces différents aspects, qu'un patron peut arriver à s'en sortir. Donc il y a différents lieux de commercialisation. Là encore, c'est souvent lié à des activités informelles, non déclarées. Mais c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que la production de vêtements, la confection n'est pas seulement liée à l'assemblage. Elle est souvent liée, dans cet atelier, à la conception de vêtements et à sa commercialisation.
Où vivent ces ouvriers et en particulier les travailleurs immigrés?
Ça, c'est un élément important. Les patrons d'ateliers, souvent, logent leurs travailleurs sur l'atelier, dans l'atelier même ou à proximité dans le quartier. Ce qui fait que ça introduit quelque chose d'assez original dans le système résidentiel des populations urbaines peu qualifiées. C'est-à-dire que ces immigrés souvent habitent dans les quartiers centraux. Et ça brise un peu le schéma traditionnel où la population active, les ouvrières, vit dans les quartiers périphériques lointains. Alors que São Paulo, comme beaucoup de villes du Sud, concentre l'essentiel de son emploi dans les quartiers centraux. Donc cette proximité du lieu de résidence et du lieu de travail, c'est vraiment une spécificité de la confection de ces ateliers. Et ça induit pas mal de changements urbains, notamment en termes de repeuplement de ces quartiers centraux. Ces quartiers centraux qui étaient peu habités, qui étaient en déclin démographique, du fait même que ces ateliers hébergent leurs propres ouvriers, provoquent un regain démographique dans les quartiers centraux, populaires et ouvriers.
Et alors, à qui on vend justement les vêtements qui sont produits dans ces ateliers? Parce que j'ai vu en vous lisant hier qu'il y a plusieurs types de segments de marché au Brésil, Modinha, Basicos, Moda Femina, Carregachau, je pense que je prononce très mal, vous allez le faire beaucoup mieux que moi.
Alors il y a plusieurs lignes de vêtements, mais ce qui est massif...
Et chacun correspond à un modèle économique.
Oui, oui, mais ce qui est aujourd'hui massif, c'est quand même la production et la consommation de vêtements populaires. Et là, essentiellement, les ateliers dont il est question, c'est de la mode populaire féminine. Donc c'est pas une mode de qualité, c'est du vêtement de très bon marché. Bah, l'image de ce qui se fait et ce qui se consomme aujourd'hui, c'est-à-dire c'est des vêtements qu'on utilise quelques fois et qu'on change et qu'on jette et qu'on renouvelle. Voilà. Donc c'est énormément de production, et c'est une clientèle métropolitaine, mais pas seulement, parce que la production de São Paulo inonde tout le marché brésilien jusqu'aux régions les plus lointaines.
La mode féminine, c'est la même chose que la Modina? Non, c'est quelque chose de différent.
Ces différences sont moins d'usage aujourd'hui. C'était plus au moment du développement de la confection dans les années 50 qu'on distinguait ces différents segments.
Puis il y a une chose intéressante, c'est aussi la manière dont on vend ces produits-là, le marketing qu'il y a autour. Écoutez.
Olha só, gente, essa daqui é a loja Dudu Moda Feminina. Eles vendem tanto no atacado quanto no varejo. Fica dentro do shopping Valtier Premium, tá? No primeiro andar. Então aqui tem vários croppeds, tanto sem quanto com bolso.
Alors, les auditeurs n'ont pas l'image, mais je vais essayer de faire la traduction. On a là la présentation d'une collection qui est proposée dans un magasin de São Paulo, qui a été publiée sur YouTube. On voit une vendeuse qui montre une carte de visite avec une adresse, un compte Instagram, et puis ensuite, c'est le défilé des robes, des jupes, des t-shirts. C'est des vidéos qui sont produites et qui sont vus par des dizaines de milliers de personnes. Moi, j'ai été ahuri de voir ça. D'abord, quand j'ai cherché sur le moteur de recherche, j'ai trouvé des dizaines et des dizaines de vidéos exactement sur ce mode-là, où on présente la carte de visite, et puis ensuite, c'est le défilé pendant 8, 9, 10 minutes, et ce sont des milliers de vues. Ça, c'est aussi un mode de marketing qui est lié à ce type de modèle.
Alors le centre commercial dont il est question dans l'extrait là, c'est le Vautier, donc il est dans le Brass.
Bravo, bravo, absolument.
Il est dans le Brass et effectivement, alors c'est de la mode haute, qui est vendue au détail ou en gros, hein, et ça alimente tout un commerce, tout un tourisme commercial populaire dans la région de São Paulo au-delà, hein, parce qu'on affrète des bus qui viennent du pays tout entier, de l'intérieur de l'État de São Paulo, mais d'autres régions du pays, de clients qui achètent au détail ou grossistes qui viennent s'alimenter.
Plutôt donc, classe favorisée, plutôt classe
de... Non, classe populaire, classe très populaire. Hein, c'est vraiment ça, c'est ce qui est intéressant, notamment dans le Brass, c'est que ces centres commerciaux, le Vautier est un exemple, il y en a vraiment énormément, alimentent toute une activité populaire commerciale dans le centre de São Paulo. C'est souvent des femmes hein, qui viennent. Il y a même des jeunes femmes qui viennent à São Paulo passer une nuit, parce que c'est ouvert toute la nuit, hein, qui partent le matin de l'intérieur, qui arrivent en début de soirée, qui passent la nuit dans ces marchés ou dans ces centres commerciaux et qui se filment et qui font des commentaires et c'est posté sur YouTube et c'est vu des milliers, des dizaines de milliers de fois. Donc il y a vraiment un rayonnement de ce commerce, de cette petite activité dans le pays entier.
On était avec vous, Sylvain Souchaud. On parle donc de São Paulo et de ses ateliers. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde. On va revenir du côté de l'Europe pour parler de Naples.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
L'histoire a débuté dès mon plus jeune âge. J'ai toujours été attiré par la couture. Même aujourd'hui, alors que j'ai une certaine expérience, il s'agit toujours de s'améliorer et par la même occasion, transmettre aussi aux jeunes. Lorsque j'avais 20 ans, je suis allé travailler pour un magasin important de Naples, tel que Rubinacci, et j'y ai travaillé 23 ans. Après ça, j'ai eu l'idée de faire quelque chose à moi. J'ai donc monté cet atelier. Et de bouche à oreille, sans même faire beaucoup de publicité, nous avons avancé et grandi. Notre travail reste un travail artisanal. Ce n'est pas comme si, en une journée, tu devais absolument faire 10 chemises, 20 chemises selon la force de travail. Tu ne peux pas tenir ce discours parce que c'est un travail programmé au jour le jour, en tenant compte de la disposition des clients qui ont leurs propres obligations.
Voilà, on entendait à l'instant Anna Matuozzo et ses filles qui tiennent une chemiserie à Naples, parce que comme au Brésil, la désindustrialisation et la mondialisation ont bouleversé l'organisation du secteur de la confection textile, aussi dans les pays industrialisés, pardon, et c'est le cas du côté de l'Italie, où les entreprises du Made in Italy ont été confrontés à la crise, à une baisse de la main-d'œuvre, et en particulier à Naples, dont le centre historique a été en partie vidé de ses ateliers de confection, largement parti en périphérie. Alors comment cette ville, à l'instar d'autres cités italiennes, a-t-elle évolué? La main-d'œuvre immigrée peut-elle sauver le secteur de la confection? Qu'est-ce qu'il reste aussi des districts industriels dans ce cœur de la cité? On va retrouver Pascal Froment, qui est enseignante-chercheuse, professeur à l'université Paris 8 Vincennes. Pascal Froment, vous avez écrit plusieurs articles sur le système mode napolitain, sur son évolution dans l'espace et dans le temps. D'abord, si on regarde la situation aujourd'hui, Pascal Froment, si on prend le cas de Naples, qu'est-ce qu'il reste de la confection textile dans le centre historique? Tout a été délocalisé aux marges de la ville, où il y a encore des ateliers, des magasins en centre-ville?
Si on parle de magasins, oui, il y a encore bien sûr des magasins. Bien qu'il y ait deux gros centres, en fait, à côté de Nola, en banlieue et dans la région de Marchianis, mais il y a encore justement des magasins, notamment des magasins donc qui sont plutôt des vitrines du luxe. Si on prend le dernier recensement, ça remonte un petit peu à 9 ans, mais il y avait encore 22% des unités donc du textile habillement et du cuir qui étaient localisées dans la commune hein, par rapport au reste de l'ensemble de la compagnie. Donc c'est tout de même un pôle encore important. Et en revanche, dans le centre historique, il est sûr que là, les pertes ont été vraiment très, très, très importantes à partir, disons, des années 90. Le mouvement a commencé dès la fin des années 70 et des années 80, mais dans les années 90, il y avait encore beaucoup de petites unités dans le centre historique de Naples. En revanche, à partir du début des années 2000, il y a véritablement une hémorragie hein, de ce tissu productif, en fait, de ces unités, vers les communes proches, ça c'est depuis un certain temps, et vers aussi donc les zones qui étaient autrefois industrialisées au sein de la commune de Naples, notamment la zone industrielle qui a été abandonnée donc et qui il y avait des friches industrielles et qui ont été reprises en fait par ces entreprises qui ont déménagé à partir du centre.
Vous parlez d'hémorragie, Pascal Froment. Faut donc comprendre que ce sont des déplacements qui ont été subis en réalité.
Oui et non. Ça vient de plusieurs facteurs. Alors, un des facteurs importants, c'est un facteur local. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du milieu des années 90, disons, la politique municipale a favorisé donc une requalification du centre avec une piétonnisation, donc une circulation beaucoup plus difficile et pour les échanges et les accès, en fait, aux toutes petites entreprises, c'était très compliqué. D'autant plus le tissu, en fait, était fait de très petites unités fragmentées dans les territoires. On peut dire qu'à peu près, il y a plus de 90% encore en 2011 qui ont moins de 10 employés. Hein, donc, ce sont vraiment de petites structures. Et parallèlement, donc, il y a un autre phénomène qui entre en ligne de compte, c'est que il y a une réorientation, justement, comme c'est une concurrence de plus en plus forte, il y a une réorientation donc vers les gammes de luxe ou le haut de gamme. Et de ce fait, et souvent justement pour des grosses entreprises, voire des firmes transnationales qui travaillent plutôt pour le nord de l'Italie, une partie des entreprises napolitaines. Et de ce fait, il y a un contrôle de plus en plus sévère sur la production et il y a un besoin en fait de rationaliser la production et également d'être dans des endroits plus spacieux, plus adaptés et aussi de soigner l'image en fait de l'entreprise par rapport aux donneurs d'ordre, donc aux firmes, aux grandes firmes. Donc ça aussi, ça a joué beaucoup du côté du marché en faveur d'un éloignement.
Mais en tout cas, ce que j'entends, Pascal Froment, c'est qu'il y a quand même eu de la part de la municipalité, des autorités publiques, une intention de provoquer ces déplacements.
Tout dépend du moment, parce que par exemple à la fin des années 90 et début des années 2000, enfin, il y avait une volonté notamment dans le cadre du programme européen urbain, donc à la fin des années 90, de conserver ces petites entreprises, de les aider, de façon à pouvoir maintenir de l'emploi dans le centre, dans les quartiers populaires où les taux de chômage sont très élevés. Il se trouve qu'après, en revanche, dans les années 2000, donc ça a évolué vers d'autres mises aux normes en fait de la ville-centre, et notamment du centre historique. Et effectivement, ça a été moins dans ce sens-là. Mais il y a eu quand même un moment où il y a eu une volonté de garder ce tissu productif et cette diversité dans le centre.
Pascal Froment, vous parlez d'emploi. Si on regarde un peu la main-d'œuvre derrière cette industrie, qu'est-ce qu'on va trouver ? Est-ce qu'on va trouver majoritairement des Italiens ? Est-ce qu'on va trouver majoritairement des populations migratoires ?
Tout dépend des territoires, en fait. Si l'on prend le centre de Naples pendant très longtemps, donc ça a été presque exclusivement, par exemple au début des années 90, c'était exclusivement des Italiens. Ça a évolué dans les années 2000, mais de façon différente. Et notamment, il y a des emplois au sein de Naples qui sont de plus en plus donc pourvus par des populations donc immigrées. En revanche, dans la banlieue de Naples, notamment dans une zone qui est celle des communes vésuviennes, autour du Vésuve, donc, où il y a un pôle, en fait, de textile habillement, surtout, très important, il y a une forte présence chinoise, dans l'entrepreneuriat de l'habillement. Et de plus en plus, en fait, et c'est ça qui est intéressant, depuis les années 2010 en particulier, des communautés, en fait, venant du Bangladesh, et qui travaillent, en fait, pour des donneurs d'ordre locaux, et qui alimente largement en main-d'œuvre cette industrie qui reste en fait justement de cette industrie de la confection.
Mais ce que vous dites aussi dans votre article, Pascal Froment, c'est que ces ouvriers, ces populations immigrées, elles ne tiennent pas seulement, j'allais dire, les postes les moins qualifiés. On a aussi des immigrés qui lancent leurs propres entreprises. Il y a aussi ce profil-là de plus en plus.
Tout à fait. Ouais. Alors, il y a deux types, en fait, justement, dans l'entrepreneuriat. Justement, il y a deux communautés très importantes dans l'entrepreneuriat étranger. Les premières sont les émigrés du Bangladesh et parallèlement, donc, des Chinois, mais qui ne travaillent pas du tout de la même façon. Par exemple, les entreprises chinoises sont devenues importantes. Je crois que c'est la troisième communauté d'entrepreneurs en général. Et dans l'habillement, donc, ils sont bien représentés, mais ils sont davantage en relation avec leurs homologues, on va dire, dans d'autres régions d'Italie, par exemple dans le nord-est, et notamment à Prato, justement, où la communauté chinoise est très importante dans l'entrepreneuriat de la confection. Et alors que, par exemple, les entrepreneurs donc du Bangladesh sont davantage en fait en relation étroite avec les producteurs napolitains. Donc on a en fait des organisations qui sont un peu différentes en fonction justement des communautés.
Pascal Froment, comment est-ce que les Italiens perçoivent-ils cette montée en puissance des travailleurs d'origine étrangère dans cette industrie textile ? Est-ce que tout cela se passe magnifiquement avec une intégration totalement sans heurts ou ça engendre des tensions ?
Assez différencié. Dans les entretiens donc que j'ai fait en 2015-2016, par exemple, il y avait déjà donc une communauté donc du Bangladesh, elle a bien installé. Les entrepreneurs disaient qu'ils étaient justement contents parce qu'ils travaillaient bien, qu'ils étaient fiables, qu'ils pouvaient leur faire confiance et que ça fonctionnait bien. D'autres, en revanche, donc trouvent que s'il s'agit d'une concurrence qui peut être déloyale. Mais ça dépend un petit peu des affaires. Au moment de la crise, par exemple, ça a été relativement compliqué, les tensions étaient plus vives, alors que là, il y a vraiment des problèmes, en fait, pour une partie de cette... Alors, c'est vrai pour le cuir, mais ça l'est aussi pour la confection. Une difficulté à trouver aussi de la main-d'œuvre donc sur place, et de ce fait, la possibilité de trouver une main-d'œuvre donc flexible et pas trop chère, donc en donnant aussi du travail aux entrepreneurs, donc... étrangers, c'est aussi un plus pour ces unités qui ont du mal à justement renouveler et à trouver une main-d'œuvre sur place, disons.
Merci beaucoup Pascal Froment d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes enseignante chercheuse et professeure à l'université Paris 8 Vincennes de Naples. On va prendre la direction de Paris et de New York parce que ce soit du côté du Sentier ou de la 7e Avenue, eh bien là aussi l'histoire des migrations se confond avec l'histoire des de la confection, de l'industrie de la confection, des ateliers de confection. On va retrouver Nancy Green. Vous êtes directrice d'études à l'EHESS, historienne, spécialiste de l'histoire comparée des migrations contemporaines et vous aviez écrit un ouvrage, il y a une vingtaine d'années, du Sentier à la 7e Avenue, La Confection et les Immigrés, Paris-New York, 1880-1980, c'était au Seuil. Vous êtes l'une des grandes spécialistes de l'histoire des migrations. D'abord, pourquoi est-ce qu'à l'époque, vous aviez fait le choix précisément de vous intéresser au secteur de la mode ? En quoi ça vous apparaissait comme un bon terrain pour étudier les structures migratoires, Nancy Green ?
En fait, j'avais commencé par travailler sur un groupe en particulier, c'était des immigrés juifs de l'Europe de l'Est qui sont venus à Paris au début du XXe siècle, et où il se trouve qu'il y avait beaucoup qui étaient dans la confection. Et ça m'est paru assez vite important de voir comment c'est pas juste un secteur pour un groupe, mais que c'est vraiment une industrie qui attire des immigrés. Et ça, depuis maintenant plus d'un siècle, et à la fois à Paris et à New York. C'est une des industries, de la petite industrie, en fait, qui attire beaucoup d'immigrés, comme la restauration, comme le bâtiment aussi.
Vous distinguez trois grandes périodes dans ce secteur de l'habillement, que ce soit à Paris ou à New York. Il y a d'abord les années 1870-1880, avec le développement des machines à coudre. Il y a la fin du 19e, avec le développement de la confection féminine. Et puis, plus tard, les années 1960-1970, avec le vrai décollage de ce qu'on a appelé le prêt-à-porter. Est-ce qu'il y a des différences entre ces trois périodes s'agissant de la manière de faire appel aux travailleurs migrants, où finalement il s'agit à peu près toujours d'aller chercher la main-d'œuvre la plus avantageuse et donc, a priori, la dernière vague migratoire qui est, a priori, la plus fragile économiquement puisqu'elle vient d'arriver?
Oui, exactement. Mais en même temps, il faut savoir, effectivement, il y a une structure de cette industrie qui fait appel à la sous-traitance en cascade, qu'avait dit un autre collègue. Et c'est vraiment une forme qui permet, en fait, aux donneurs d'ordre d'avoir une flexibilité par rapport à la fabrication. C'est aussi quelque chose qui permet aux immigrés d'entrer dans ce secteur de manière relativement facilement par des réseaux, par des connaissances, etc. Donc il y a quelque chose qui tient à la structure aussi de l'objet. C'est pas comme monter une machine une industrie métallurgique. On peut ouvrir un atelier avec quelques machines à coudre, les choses pour faire le pressing, etc. Donc il y a quelque chose qui tient à l'objet, qui aussi permet la sous-traitance, qui permet des petites structures, et on va faire appel aux immigrés pour cela pendant plus d'un siècle, avec des différences dans à la fois les différentes vagues immigrés qui vont venir dans les différentes villes. Tout immigré ne vient pas confectionneur, hein, quand même. Mais il y a des gens qui viennent et qui en parlent à d'autres. Et donc, il y a des ateliers comme ça qui se forment sur la base des réseaux, des connexions. Mais il y a aussi une autre variable, c'est la législation de travail qui va, par moment, essayer de réglementer justement ces petits ateliers où les conditions de travail sont très dures.
Et est-ce que justement cette réglementation, elle va avoir un impact sur la structure migratoire qu'on retrouve derrière ce secteur de la mode ? Parce que si on fait une comparaison entre Paris et New York, est-ce qu'on voit effectivement des structures migratoires différentes ou elles sont à peu près les mêmes et elles évoluent en même temps dans l'une et dans l'autre ville ?
Les groupes en fait qui viennent ont un peu leur propre dynamique. Ça dépend des conditions dans les pays d'origine, pourquoi les gens partent à un certain moment, mais il va y avoir aussi des gens qui viennent par proximité géographique. Il y aura des Portoricains à New York, il y aura des Juifs tunisiens à Paris. Donc c'est logique, c'est dans les logiques des rapports coloniaux, coloniaux aussi, en certain sens, aux États-Unis. Donc il y a des rapports qui expliquent qui viennent d'une certaine manière.
Mais il y a des considérations purement géographiques aussi à prendre en compte.
Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Il y aura certains des mêmes qui sont dans les deux villes, les Juifs d'Europe de l'Est, à New York et à Paris, au début du XXe siècle, étaient un peu des mêmes flux migratoires, mais ont aussi leur propre dynamique. Donc, c'est pas seulement parce que les gens peuvent savoir qu'il y a du travail aussi. Les gens, par connaissance et par connexion, par information qui sont échangées au sein des groupes, les gens vont où il y a du travail.
Est-ce qu'ils viennent avec leur savoir-faire ou finalement la plupart apprend sur le tas et voilà.
Ouais, les deux. Parce que à la fois il y a un savoir-faire incontestable pour ce domaine, mais pour la confection, pour le mécanicien ou la mécanicienne de base, on peut l'apprendre et puis on se passe des tuyaux. Puis c'est beaucoup dans la pratique et puis de devenir plus rapide que on devient plus spécialisé. Mais on peut l'apprendre sur le tas et on l'a beaucoup fait. Et ça aussi, ça aide pour les gens qui arrivent, qui n'ont pas de boulot, qui cherchent quelque chose.
Et puis par ailleurs, Nancy Green, il y a tout un tas de stéréotypes ethniques, des hiérarchies entre les différentes catégories d'immigrés qui travaillent dans le textile, qui vont se mettre en place, qui se renouvellent au cours du temps, avec des catégories comme le tailleur juif qui, je cite, aime la liberté et qui, dans son atelier, est son propre patron, peut fumer, parler, venir plus tard, travailler une heure de plus. Ça, c'est ce qu'on lit dans les notes de la commission industrielle américaine, vous le mentionnez dans votre ouvrage. On a aussi les Italiens, qu'on tient pour responsables d'avoir expulsé les Américaines du secteur de l'industrie. Mais ces stéréotypes, on voit, hein, c'est un très bon laboratoire, l'habillement de ces représentations ethniques, de ces stéréotypes qui perdurent aujourd'hui. Vous citez aussi un titre du quotidien Le Monde il n'y a pas si longtemps, c'était dans les années 80, qui titrait « Le travail noir et la filière jaune ». On voit que ça reste.
Oui, mais c'est ça le fonctionnement en fait des stéréotypes. Et ce que j'essaie de démontrer, c'est que si les stéréotypes se répètent ou se renouvellent, ça montre que ça fonctionne pas vraiment. Parce que si c'était lié qu'à un certain groupe, il n'y aurait pas d'autres qui viendront. Donc chaque fois, on utilise les stéréotypes pour essayer d'expliquer que c'est lié avec une espèce d'essence d'un certain groupe. Mais en fait, si on étudie justement les stéréotypes à travers le temps, on voit qu'ils sont utilisés plus que quelque chose qui colle à une réalité spécifique.
Alors, outre les immigrés, Nancy Green, il y a une autre catégorie qui a joué un rôle très important dans l'histoire de l'habillement, que ça soit du côté de Paris ou du côté de New York, c'est les femmes. Vous avez d'ailleurs un chapitre intitulé « Femmes et immigrées au travail ». Est-ce qu'elles ont une place, disons, comparable à celle des immigrés ? Finalement, le travail féminin ou le travail d'immigrés, c'est à peu près la même chose et on y associe les mêmes représentations ou elles ont une place à part ?
En fait, pendant très longtemps, les deux catégories, en tant que catégories, font partie de ce qu'on appelle un deuxième marché de travail, où les secteurs où on est moins bien payé, où les conditions de travail sont plus difficiles. Et dans le cas de la confection, d'abord, le stéréotype, là encore une autre, de la femme qui a la dextérité de manier l'aiguille, était un stéréotype pendant très longtemps, mais En fait, avec l'arrivée des immigrés, surtout, on a vu qu'il y avait à la fois les femmes et aussi beaucoup d'hommes, des immigrés qui sont entrés dans différents secteurs de l'industrie de la confection. Et donc, ça montre aussi que les stéréotypes attachés ou au sexe ou au groupe ne sont que des stéréotypes.
Nancy Green, vous rappelez au tout début de votre livre, donc je rappelle Du Sentier à la 7e Avenue, le poids absolument colossal de l'industrie textile en termes d'emploi, que ce soit du côté de Paris ou du côté de New York, dès la deuxième partie du 19e siècle et même au-delà. Et dans le même temps, vous soulignez le fait que ce secteur a été précisément relativement secondaire dans l'histoire de l'industrialisation, en particulier s'agissant de Paris peut-être, où ça a été assez largement ignoré, en tout cas pendant très longtemps. Comment on peut comprendre ce paradoxe, Nancy Green?
Oh, c'est un peu le fait des historiens. On peut prendre, nous, les historiens, on a notre part dans les représentations et ce qu'on choisit d'étudier. Mais c'est vrai que beaucoup de travaux à partir de l'histoire sociale des années 1970 se sont focalisés d'abord sur la grande industrie. Et la grande industrie, l'histoire de l'industrialisation au sens fort du terme. Et aussi dans l'histoire de l'immigration, on a aussi focalisé pour des raisons qui sont compréhensibles sur les immigrés dans les grandes entreprises, les grandes industries, la grande industrie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voyait moins, et du coup, on voyait moins des femmes immigrées, et on voyait moins la petite industrie, où pourtant, et je reviens à ces trois secteurs qui restent des secteurs en fait urbains, où qui donnent beaucoup de travail aux immigrés, la confection, le bâtiment et la restauration encore aujourd'hui.
Est-ce qu'aujourd'hui, ça reste un objet pertinent? Parce que les secteurs de l'habillement, que ce soit du côté de la 7e Avenue ou du côté du Sentier, ils n'ont évidemment plus leur éclat d'antan, et pour cause, hein, ils ont beaucoup souffert d'une concurrence internationale qui les ont réduits à peau de chagrin. Est-ce qu'aujourd'hui, l'habillement, ça reste un objet pertinent pour poursuivre cette analyse de l'histoire migratoire, où finalement les migrants se tournent vers d'autres secteurs et c'est plus aussi important, plus aussi pertinent?
C'est vrai aussi, les immigrés se tournent aussi largement vers le secteur du care. Donc, juste pour ajouter ça. Mais ça reste, et je pense que ça restera, parce que le réassortiment des vêtements dans les magasins reste quelque chose qui est très redevable à la rapidité. Et si la production est très loin, ça prend quand même du temps pour faire revenir plus de bleu, les couleurs, la couleur bleue, si c'est la tendance de la saison. Si tout d'un coup tout le monde veut du bleu, voilà, il faut pouvoir en fait réassortir. Donc je pense qu'il va rester toujours une part de cette flexibilité de la main d'œuvre dans les ateliers à proximité. Mais vous avez raison, on sait le déclin, entre guillemets, enfin c'est un déclin de l'industrie dans les deux villes, est constaté. C'est constaté à la fois par les importations, mais aussi depuis le début de cette industrie et des tentatives peut-être un peu plus d'abord à New York qu'à Paris, de syndicalisation a fait que les fabricants ont aussi déplacé petit par petit la production d'abord dans les banlieues, ensuite aux États-Unis ou en France aussi dans les autres villes ou des provinces pour ce qui était possible pour certains types d'articles qui avaient moins besoin d'un réassortiment immédiat, pour finalement commander carrément à l'extérieur, à l'étranger. Donc il y a une espèce de tendance longue aussi, qui est à la fois ce déplacement de la production où les ouvriers sont moins syndiqués, où ils peuvent être payés moins cher, et pour finir aussi avoir donc l'importation massive à travers encore une forme de sous-traitance, une sous-traitance maintenant qui est délocalisée à Bangladesh ou ailleurs.
Merci.
Donc il y a tout ça, mais je pense qu'il restera et il reste encore des ateliers de confection à proximité pour justement cette nécessité de répondre très vite à la mode.
Merci beaucoup Nancy Green d'avoir été avec nous ce matin. Je rappellerai votre ouvrage Du Sentier à la 7e Avenue, La Confection et les Immigrés, c'était aux éditions du Seuil. Un grand merci à vous Sylvain Souchaud de nous avoir accompagnés ce matin.
Merci.
Je rappellerai vous concernant donc sur Sao Paulo qu'on a évoqué ensemble, géographie de l'atelier, confection, migration, urbanisation à Sao Paulo. Et puis également un autre ouvrage, Le Brésil, aux éditions Atlant. On mettra évidemment tout ça en référence sur la page de Culture Monde. Un grand merci à vous. 11h53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Quand Donald Trump a annoncé sa candidature aux primaires républicaines, à peu près tous les commentateurs autorisés ont crié au fou.
Mais oui, Comment un New-Yorkais divorcé, remarié à une bimbo et connu pour ses frasques sexuelles, aurait-il pu convaincre la droite chrétienne, socle traditionnel du Parti républicain ? Ce parti, lié au business et favorable au libre-échange, Trump, lui, veut démondialiser l'économie. Les républicains sont méfiants envers la Russie, Trump copine avec Poutine. Vous verrez, ça ne marchera pas, disait-on. Moi aussi, je disais ça. Et quand Trump a été nominé par les Républicains, nous avons tous prédit « c'est une folie, il n'a aucune chance ». On connaît la suite. Qui aurait imaginé que Viktor Orban, ancien dissident de tendance libérale, multiplie les succès électoraux après s'être rallié à la tradition chrétienne nationale hongroise, en tout point opposé à sa tradition libérale et pro-européenne. Qui aurait parié sur le capitaine Bolsonaro, renvoyé de l'armée pour conquérir le Brésil? Ou encore que la Ligue de Matteo Salvini, fondée par des illuminés qui voulaient larguer le Mezzogiorno pour créer leur Padani, puisse devenir le premier parti d'Italie? Et on pourrait ainsi poursuivre la liste des péripéties ahurissantes récentes. Mais lorsqu'un phénomène politique réputé invraisemblable se répète à tous les horizons de la planète, c'est qu'il se passe quelque chose, une rupture de l'ordre politique. Partout, écrivait lundi dans le Figaro Ran Halevi, on observe les mêmes phénomènes. Le délitement des partis politiques, une fracture entre le peuple et les élites, des inégalités entre les métropoles dynamiques et les périphériques qui se sentent abandonnées, l'aliénation culturelle du peuple de quelque part qui divorce des gens de n'importe où, l'emballement de la revendication des droits, des aspirations identitaires. Eh bien, c'est ce cocktail inquiétant qui aspire vers le pouvoir des politiciens d'un genre inhabituel. Et le dernier en date de ces phénomènes s'appelle Boris Johnson. Lui aussi a été considéré comme un imposteur, un histrion tourbillonnaire. Or, il vient de remporter l'une des victoires électorales les plus étourdissantes de l'Angleterre moderne. Il a infligé en effet aux travaillistes la pire défaite de leur histoire depuis 1935. Et il y a forcément des leçons à en tirer. Pour la gauche britannique, Boris Johnson est une énigme. Au lendemain de sa victoire, Tim Bale écrivait dans The Guardian, il y a trois solutions. Soit Johnson n'a aucune idée, aucun principe, mais il est seulement follement ambitieux. Et après une carrière de journaliste bien payé, il s'est tourné vers la politique comme le glouton vers son dessert. Soit il raconte n'importe quoi pour étendre le cercle de ses alliés potentiels en se laissant une copieuse marge de manœuvre. Soit c'est tout simplement un populiste de la droite radicale et il croit à ce qu'il dit, à savoir rendre à la Grande-Bretagne sa splendeur d'antan dans un mélange d'insularité et d'ambition mondiale. Le grand atout de Boris Johnson, écrit Ran Halevi, est d'avoir tôt identifié, comme Donald Trump, le centre de gravité du mouvement qui balaie nos démocraties, le besoin identitaire de nation, avec les peurs, les frustrations, les colères qu'il charrie et qu'exacerbent les excès de la correction politique.
Alors Brice, quelles sont les caractéristiques du nationalisme dans sa version Boris Johnson ?
Bojo se réclame du « One Nation Conservatism » et se place sous l'invocation de Benjamin Disraeli, l'inventeur de cette formule. Personnage haut en couleur, juif et anglican, romancier célèbre et impérialiste, Disraeli a révolutionné le parti conservateur dans la seconde moitié du XIXe siècle en expliquant que la classe ouvrière naissante pourrait partager davantage d'idées et d'intérêts avec les conservateurs qu'avec les libéraux de son rival Gladstone, à condition de faire appel au patriotisme des ouvriers et de se préoccuper de leur santé. Dans un de ses romans, Disraeli peignait de manière poignante la misère des villes ouvrières et des villes minières et le titre c'était « Sibylle ou les deux nations ». Une fois devenu Premier ministre, il s'employa à mettre fin à cette misère et à cette fracture sociale, d'où son conservatisme d'une seule nation. Et bien Boris Johnson, comme Disraeli, a réussi à attirer vers lui une bonne partie du vote ouvrier. Il a brisé le mur rouge qui, du Pays de Galles aux anciennes cités minières du Nord-Est, faisait barrage aux Tories. Exactement comme Trump a conquis des États ouvriers acquis aux démocrates depuis des générations. Le programme de Bojo comporte un investissement massif dans le secteur de la santé qui, comme on le sait rarement ici en France, est entièrement gratuite et étatisée en Grande-Bretagne. Johnson a promis une augmentation de 34 milliards de livres pour le National Health Service au cours de son mandat. Beaucoup doutent qu'il tienne ses promesses de conservatisme social. En effet, ceux qui incarnaient cette ligne, comme Amber Rudd ou Philip Hammond, ont été exclus du parti ou bien l'ont quitté. Mais comme l'écrit Ran Halevy, Boris Johnson a impitoyablement purgé le parti conservateur non seulement des adversaires du Brexit, mais de ceux qui ne partageaient pas sa stratégie pour y parvenir. Ce qui rappelle la manière dont Donald Trump a mis lui-même au pas le parti républicain aux États-Unis. Avec quelle chance de succès politique, nous verrons.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture. Rendez-vous demain sur le site et lundi à ce micro. Merci beaucoup.